Studio Tamani, voici les informations en français.
Il est 18h, vous êtes à l'écoute de Studio Tamani. Bonsoir à tous et bienvenue. Voici le sommaire de ce journal. 243 civils tués, 55 enlevés ou disparus et 77 blessés. C'est ce qui ressort du rapport trimestriel de la MINUSMA. Au même moment, la population continue de dénoncer l'insécurité à Gao et à Ansongo. L'assassinat d'un enseignant et son fils à Menaka a provoqué la colère des syndicats des enseignants. Ils réclament l'ouverture d'une enquête. À Bamako, les points de vente de viande se multiplient. Les normes d'abattage sont-elles respectées? La réponse dans ce journal qui vous sera présenté par Assetou Kanté. La technique est assurée par Gagne Kanté. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue. La mission de l'ONU au Mali révèle dans son rapport trimestriel 375 violations et atteintes aux droits de l'homme et aux droits internationaux humanitaires. Parmi celles-ci, 243 civils tués, 55 enlevés ou disparus et 77 blessés. Cette note publiée ce mercredi 9 novembre couvre la période du 1er juillet au 30 septembre. Draman Maïga pour plus de détails.
La note indique que le centre du pays est l'épicentre des actes de violence, notamment la région de Bandiagara avec 101 actes. La MINUSMA affirme avoir documenté 163 atteintes aux droits de l'homme imputables aux groupes tels que le Jamaat Nusrat al-Islam ou al-Muslim JNIM, l'État islamique au Grand Sahara et IGS et autres groupes similaires. En ce qui concerne les milices et autres groupes armés d'autodéfense communautaire, la note rapporte qu'ils ont été responsables de 33 atteintes aux droits de l'homme. Par ailleurs, la MINUSMA impute 162 violations des droits de l'homme aux forces de défense et de sécurité du Mali. Une hausse de 33% en comparaison au trimestre passé, toujours selon la note. Durant ces trois mois, sur l'ensemble des violations des droits de l'homme, la MINUSMA évalue une baisse de 20% comparativement au trimestre précédent, qui était de 467 cas recensés. En plus de Bandiagara, les régions les plus touchées sont, selon la note, Gao avec 75 cas de violations des droits de l'homme, Menaka 73 cas, Mopti avec 50, Ségou 33 cas, Douanza 23 cas, Tombouctou 13, Kai 4 et Koulikoro avec 3 actes de violence.
Au même moment, des initiatives continuent dans la région de Gao pour dénoncer l'insécurité. Malgré la reprise des activités à Gao et à Ansongo après deux jours d'arrêt de travail, les différentes centrales syndicales UNTM, CSTM, CDTM de Gao disent attendre des résultats au risque d'entamer d'autres actions. Hamadoun Abdoulaye est le porte-parole des centrales syndicales de Gao. Il est au micro de notre correspondant sur place, Ali Maïga.
Le bilan que nous tirons, c'est d'abord un bilan de satisfaction parce que l'arrêt de travail a été suivi dans sa totalité. Tous les services étatiques privés, y compris les ONG, au niveau de toute la région de Gao. Pour la commission, nous allons nous retrouver, faire encore une proposition de sortie de crise que nous allons envoyer au gouverneur. Seulement qu'il va nous appeler pour nous donner des éléments de réponse. Tout dépendra réellement de ce qu'ils vont nous proposer. Si on nous propose des choses qui nous tiennent à l'esprit, nous allons sursoir à toute activité. Mais si réellement nous ne sommes pas satisfaits, nous allons à d'autres étapes. Ce qui compte pour nous, c'est le résultat. De la plus bonne manière et en toute responsabilité.
Vous pouvez réagir à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Les syndicats des enseignants de Menaka ne cachent pas leur colère après l'assassinat d'un de leurs en compagnie de son fils. Ils ont suspendu les cours dans la localité. Ils réclament l'ouverture d'une enquête. Le drame s'est déroulé dans la ville de Menaka dans la nuit du 8 au 9 novembre dernier aux environs de 2h du matin. Les détails avec Mohamed Agui Safetan, notre correspondant à Menaka.
Dans le communiqué lu sur les médias, les syndicats signataires du 15 octobre 2016 de Menaka condamnent avec la dernière rigueur ce double meurtre et réclament l'ouverture d'une enquête impartiale afin d'arrêter les auteurs. Autre demande faite dans ce communiqué, la sécurisation des enseignants et leurs familles et la sécurisation de l'espace scolaire. Par ailleurs, les syndicats des enseignants décrètent un arrêt de travail à compter de ce jeudi 10 novembre jusqu'au mardi 15 novembre 2022 inclus. Fessidi Assouta, conseiller au centre d'animation pédagogique de Menaka et son fils ont été abattus à leur domicile à Menaka ou Kalkite Karen. Selon des témoignages, les assaillants au nombre de trois seraient venus pour braquer l'enseignant. Ils ont été enterrés ce mercredi devant plusieurs dizaines de personnes. Mohamed Ag Issafetan, Menaka, Studio Tamani.
Je vous l'annonçais dans les titres, les points de vente de viande sont florissants à Bamako. Toutefois, si certains respectent les règles d'abattage, nombreux sont ceux qui ne les respectent pas. Qu'en courent ceux qui dérogent à ces règles? Éléments de réponse dans ce reportage de Abdoulaye Touré.
En général, la viande consommée au Mali doit passer par l'abattoir et les services vétérinaires sont chargés du contrôle. Cependant, certains bouchers affirment que le marché est inondé d'une viande qui quitte ailleurs.
Moi, j'achète mon bœuf que je pars abattre à l'abattoir. On me remet un récit après l'abattage. Avant, les contrôleurs venaient, mais plus maintenant.
Auparavant, la viande ne pouvait pas être importée au Mali. Mais maintenant, ce n'est plus le cas.
Docteur Modibo Ngueba, chef de division inspection et santé publique à la direction des services vétérinaires du Mali indique qu'il y a des phases de contrôle avant l'abattage de l'animal.
À la première phase, ça c'est l'inspection sur pied. Là, on inspecte l'animal avant l'abattage. Après l'abattage, maintenant, on examine si on voit l'état de la viande.
Selon Dr Ngoïba, les bouchers qui ne respectent pas les voies d'approvisionnement légales s'exposent à des sanctions allant du retrait de la viande jusqu'à l'emprisonnement.
Le mariage par enlèvement reste une réalité en milieu bo, une pratique ancestrale qui remonte à des milliers d'années selon les traditionalistes. À Tegena, un village situé dans la commune de Benena, région de Sang, ce type d'enlèvement se fait encore. Il se manifeste avec le consentement mutuel inscrit dans un cadre rituel, racontent les habitants. Un dossier de notre envoyé spécial de retour de Sang, Arkia Touré.
Ça n'a pas d'autre signification. Le respect vraiment est très sérieux dans le milieu bois parce que on ne veut jamais enlever la jeune fille à la présence du père ou bien de la mère.
Ici, Tandekone, traditionnaliste à Tegena, ce village est situé à 65 km de la ville de Sang. Encore aujourd'hui, l'enlèvement pour le mariage se pratique au sein de cette communauté composée à majorité bo. Il y a plus de 40 ans, Chantal Diara, mère au foyer, se faisait enlever par son fiancé en signe de son amour.
Avec mon amoureux, on s'était mis d'accord. Je suis partie les attendre à un coin de la ville. Ses amis m'ont amené dans une famille. Le lendemain, ils ont dépêché des personnes pour informer ma famille de la situation. Celle-ci a donné son accord et c'est comme ça que j'y suis restée.
Âgée aujourd'hui de 62 ans, Chantal est mère de 7 enfants sortis de cette union. Elle dit ne rien regretter.
J'ai aimé que les choses se passent ainsi.
Cette pratique culturelle est interprétée différemment dans certains milieux. Mais le traditionnaliste Tandekone rassure qu'il y a une règle à suivre.
Ce n'est pas un enlèvement en tant que tel. Le jeune homme qui va lui marier même, généralement, là, n'est même pas présent. C'est ses camarades qui font les démarches. Et si la fille n'est pas d'accord, vraiment tenter de la violer dans le pays bois, c'est honteux.
L'enlèvement pour le mariage tend à disparaître dans cette zone. À 100, la nouvelle génération est partagée sur la question.
Avant, c'était l'enlèvement et c'était bien.
À mon avis, il est préférable de demander la main de la fille à ses parents que de l'enlever.
Entre le respect d'une tradition et une société en pleine ascension, chacun tente de trouver le juste milieu. Arkia Touré de Retour des Sangs pour Studio Tamani.
18h passées de 8 minutes. Dans quelques minutes, ce sera le grand dialogue. Bonsoir, Sekou Gadigo.
Bonsoir, c'est tout.
Ce soir, vous allez aborder quel sujet dans le débat?
Sahel, à quoi faut-il s'attendre après le retrait de Barkhane? C'est le thème de notre grand dialogue de ce soir. Nous recevons des spécialistes des questions sécuritaires. Dr Ali Tunkara, directeur du Centre d'études stratégiques sécuritaires au Sahel. Dr Abdoul Sogodogo, enseignant, chercheur, vice-doyen de la FC. La faculté des sciences administratives et politiques, et Dr Abdraman Diko, enseignant-chercheur à l'université André Salifou de Zender au Niger. Il sera au téléphone.
Merci et très bon débat. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez écouter toutes ces informations sur notre site web au www.sudiotamani.org ou en appelant gratuitement sur Viamo au 37 321. Restez à notre écoute. Tout de suite, le magazine.
Chers élèves, enseignants et parents, ces messages vous concernent.
Des leçons de lecture, d'écriture et de calcul vont être diffusées par les radios partenaires de Sidio Tamani. Soyez à l'écoute.
Dans le cadre de la continuité pédagogique, le ministère de l'Éducation nationale et Sidio Tamani, avec l'appui de l'UNICEF, lance à compter du lundi 14 novembre 2022 un programme d'enseignement intitulé « L'école à la radio ».
Diffusion des leçons par 85 radios partenaires de Sidio Tamani dans toutes les régions du Mali, du lundi au vendredi de 10h à 11h. La rediffusion se fait selon le programme local de chaque radio.
L'école à la radio, un programme d'enseignement par la radio sur les matières de base du programme national en lecture, écriture, calcul pour les élèves des niveaux 1 et 2 de l'enseignement fondamental. Ce programme est ouvert à tous. Les adultes sont encouragés à écouter et à encadrer leurs enfants.
On assiste à la montée des eaux du fleuve Niger dans plusieurs localités du centre et du nord du pays. Cette élévation du niveau de l'eau impacte le bien-être des enfants dans ces zones. Selon les sources locales, certains enfants ont des difficultés à traverser le fleuve pour se rendre à l'école. Les inondations constatées par endroits sont à l'origine des cas de paludisme chez des enfants, rapportent aussi des habitants. Les autorités locales appellent à plus de précautions pour faire face à la période de crue. Pour en parler davantage, suivons ce magazine Tous les enfants du Mali, réalisé par Juliette Koulibaly et les correspondants locaux, mais présenté par Ousmane Ali Bouli.
À Mopti, cette montée des eaux a eu d'énormes conséquences sur nos enfants. C'est le cri d'amertume lancé par Nkoum Sinenta, chef de village de Masinakoda, dans la commune de Mopti. Selon lui, beaucoup d'enfants ont été touchés par des maladies diarrhéiques.
Il y a des répercussions sur nous et les enfants, les maux de ventre notamment. Quand le fleuve est rempli, l'eau s'échappe sur plusieurs lieux. L'eau sale coule dans le fleuve et c'est ce que nous buvons. Ça donne des maux de ventre. Cela cause plusieurs maladies.
Au nord du pays, les populations de Bokiyat se sont réveillées les pieds dans l'eau suite à la rupture du canal de Kadhafi. Malgré l'inondation, les enfants continuent de jouer sur place. Mais certains enfants rencontrés par notre correspondant disent être conscients du danger qu'ils encourent.
Je me sens malheureuse. J'ai peur. Ce que moi j'ai en tête, nous ne devons pas aller là-bas.
Vraiment, je suis tellement effrayée. Le risque, c'est de se noyer et d'être attrapé par quelque chose aussi. Ils ne font que jouer. Certains se prennent, ils disent que chacun va faire noyer son ami.
En tant qu'enfant, je me sens mal. Certains rentrent et se disent qu'ils doivent se noyer entre eux. On a peur d'aller, mais moi, jamais je ne rentre.
Ce que moi j'ai en tête, nous ne devons pas aller là-bas. J'ai peur.
Il y a beaucoup de risques. Malgré cela, tous les soirs, on est au canal pour se baigner. Chaque an, un enfant meurt. Si un enfant meurt, on peut faire beaucoup de morts. On ne vient pas au canal. Mais après, on est retour. Sinon, les risques sont nombreux.
Même sentiment, c'est les enfants de Théou, un quartier de la ville de Diré, dans la région de Tombouctou. Assal Hamaïga est un élève dans la localité. Il doit traverser pour se rendre à l'école. Il dit avoir une paire au ventre à chaque traversée.
Nous, les enfants de Théou, dans le cercle de Diré, nous avons vraiment peur de cette montée d'eau parce que nous traversions avec la pirogue pour partir à l'école. Souvent, nous ne trouvons même pas du pirogue.
Une inquiétude partagée par les parents qui demandent le soutien des autorités du pays. Il affirme ne plus pouvoir dormir sur les deux oreilles.
Nous avons vraiment des inquiétudes concernant nos enfants qui aillent à l'école chaque matin en traversant le fleuve par des pirogues.
Ici, nous sommes des pêcheurs. L'eau nous fatigue beaucoup. On demande aux autorités de nous aider à éviter tous ces problèmes. On a même peur de traverser l'eau avec les enfants.
Cette montée du fleuve Niger a provoqué le déplacement de plusieurs villages à Mopti, à Bourem Sidi Amar et à Diré. La direction régionale de la protection civile de Mopti invite les populations vivant sur le lit du fleuve non touché de prendre leurs précautions. Son directeur, lieutenant-colonel Namaké Dambélé, alerte également les parents à garder un œil sur les enfants.
Essayer de dégager attendre. On a toujours passé des messages dans ce sens, mais on essaie de le répéter. C'est les parents qui doivent veiller, surtout sur le mouvement des enfants, et faire en sorte que les enfants n'aillent pas s'amuser au bord des fleuves, au bord des cours d'eau, parce que ça peut se venir à tout moment. Il y a des villages entiers qui sont partis sous l'eau. Ça dépasse même les enfants seulement.
C'est la fin de ce magazine, tous les enfants du Mali. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.